Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Alors, je voulais revenir sur la théorie relative de la monnaie, sa dernière version, la 2.718, pour parler un peu plus précisément des fondements de la TRM, qui sont les trois libertés économiques, on pourrait même dire quatre, on verra pourquoi, et le principe de relativité. Principe de relativité qu'il faut comprendre, principe de la relativité dans l'espace-temps, qu'on peut donc aussi décrire comme étant une symétrie spatio-temporelle, tout simplement. Donc on va expliquer ça, parce que c'est important et c'est en relation avec un post du Framablog, qui est sans doute connu par beaucoup d'entre vous, Framablog qui est un blog très intéressant, très bien tenu par des défenseurs des logiciels libres et qui fait beaucoup de posts sur les logiciels libres, qui explique beaucoup en détail les aspects, mais aussi qui développe des outils. Hein. Il y a des pads, on peut faire des documents en ligne qu'on peut partager avec d'autres utilisateurs. Il y a beaucoup de choses. Il y a Framasic maintenant aussi avec des liens vers des musiques libres. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un site que je vous conseille, framablog.org. Et alors, un de ses derniers posts est sur justement le fondement des logiciels libres. Et j'ai trouvé ça tout à fait pertinent. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de manifester une opinion semblable par ailleurs. Il s'intitule « Liberté pour les utilisateurs et pas pour les logiciels ». Alors dans cet article que je vous invite à lire, qui est une traduction d'un autre article fait par Benjamin Mako Hill, probablement en anglais je crois, je vérifie, oui. Cet article nous dit en fait que les libertés logicielles définies par Richard Stallman, liberté d'exécuter le programme, liberté de modification, de copie, liberté de partage, ces libertés sont des libertés qui sont liées non pas au logiciel lui-même, mais à l'utilisateur. Ce sont des libertés qui permettent à l'utilisateur de faire ces choses-là, c'est-à-dire d'être pleinement en possession du logiciel, de pouvoir en modifier le code, en l'améliorer, bien sûr, l'étudier, le redistribuer, et bien sûr l'exécuter, ce qui est quand même la base. Donc, c'est important. Et pourquoi il fait cette démarche? Parce que dans le système des logiciels libres, justement, c'est développé un autre domaine qui s'appelle l'open source. L'open source, qui est une sorte de schisme, si vous voulez, du logiciel libre, et qui s'est un peu plus fait s'est développé dans les entreprises, et qui lui mettait l'accent plutôt sur les propriétés du logiciel lui-même, hein, voilà, qui n'est pas pareil que les propriétés de l'utilisateur, que les libertés de l'utilisateur. Dans l'open source, on dirait que c'est le logiciel qui est ouvert, dont on peut lire le code, le modifier, etc. Ça ne veut pas dire que l'utilisateur a le droit, vous voyez, hein. Il y a un petit coin sémantique entre les deux qui différencie finalement le logiciel de l'utilisateur et qui met plus l'accent sur le logiciel en tant qu'outil. Donc, et les qualités du logiciel lui-même. Et on voit bien qu'il y a la différence. Eh bien, concernant la théorie relative de la monnaie, c'est un peu la même chose. Quand on voit une monnaie comme Bitcoin, qui a eu son essor et qui continue d'être plus ou moins utilisée sur Internet, eh bien on peut dire qu'elle a tout un tas de caractéristiques qui en font un candidat monétaire intéressant. Le logiciel qui le fait tourner est libre, donc on sait comment cette monnaie fonctionne, on sait comment elle se crée. Il se trouve qu'elle a une limite, mais la limite, quand elle en est ou quand elle n'en est pas, en termes de quantité, ça fait partie du code. Mais enfin, je veux dire, c'est un autre problème. Mais on voit les qualités. Mais est-ce que cette monnaie a été designée, a été pensée pour permettre les libertés économiques de ses utilisateurs? Rien ne le dit. Rien ne le dit. J'ai envie de dire même que le code tel qu'il est écrit va plutôt dans le sens contraire. Alors, à condition, bien sûr, d'avoir défini à peu près, au moins d'avoir les idées claires sur ce que peuvent être les libertés économiques de l'homme. Alors, dans la théorie relative à la monnaie, elles sont définies. Et c'est justement ça qui est le fondement de la théorie. Donc, dans l'émission précédente, j'ai bien mis l'accent. Alors, ça peut être difficile à comprendre pour celui qui n'a pas encore pris connaissance de ce que signifie un paradigme, mais j'ai mis l'accent sur les notions de paradigme. Or, un paradigme, c'est justement partir d'un fondement profondément établi, c'est-à-dire un ensemble d'axiomes qui se veulent aussi cohérents que possible entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contradictoires, qu'ils ne disent pas des choses en contradiction les uns avec les autres. Et sur cette base, ce fondement, établir une pensée, un développement logique, cohérent, qui permet, alors soit de faire des mathématiques, de la physique, ou mais ça peut être aussi de la politique. Et ça peut être aussi, bien sûr, de l'économie. Donc ces fondements doivent être éclaircis, il faut dépoussiérer, savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'ils sont cohérents, pas cohérents, est-ce qu'ils sont contradictoires? Eh bien, dans la théorie relative à la monnaie, donc pour en revenir à notre sujet, donc on définit les quatre libertés économiques. Alors quelles sont ces quatre libertés économiques? Alors, la liberté économique telle que définie par la théorie relative à la monnaie, c'est la liberté pour chaque être humain de pouvoir accéder aux ressources. Ressources comprises, non pas comme les ressources qui appartiendraient à autrui et donc de violer la propriété d'autrui, etc. C'est la liberté d'accéder aux ressources dans le sens de la clause lockéenne, c'est-à-dire dans le sens où vous n'avez pas le droit de vous approprier toute la matière originelle qui, au départ, n'est pas à propriété. Hein. La matière originelle n'est pas à propriété de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il se l'approprie, c'est de façon péremptoire. C'est pas quelqu'un qui a pu lui donner hein, au départ. C'est pas, il n'y a pas eu. Alors, à moins qu'on croie en Dieu et que Dieu a dit, voilà, la terre est à vous et à vous seul et aux premiers hommes, et puis après, il n'a pas dit, enfin, il aurait dit donc, etc. Est-ce qu'il aurait dit après que seul l'héritage fera que vous, les suivants seront aussi propriétaires, etc. Il faut réfléchir à ça, hein, bien sûr. Maintenant, si on croit en Dieu, on peut se poser la question. Mais si on évacue la question de Dieu ou pas, bon, on se dit, si les hommes sont égaux, ils sont égaux, y compris quelle que soit l'époque où je les considère, si je veux établir une société libre. Parce que s'ils sont égaux en 2012 et pas en 2020, je vais avoir un problème avec une définition qui ne tient pas la route. Donc liberté d'accès aux ressources, ça veut dire que chaque nouvel homme qui naît, et chaque année il y a des nouveaux hommes qui naissent, et puis nous-mêmes on doit se penser comme mortels, on est quasiment déjà mort si on réfléchit dans des référentiels longs, hein, à l'échelle de évidemment de 1000 ans, notre vie compte pour peu. Elle compte bien sûr, mais elle compte pour peu. Et elle compte beaucoup par contre dans l'instant, bien sûr. Mais cet instant ne doit pas se faire au détriment de ceux qui nous suivent, donc de ceux qui naissent et qui grandissent. Et eux-mêmes, il faudrait qu'ils aient la même relation par rapport à leur successeur, bien sûr. Parce que si on grandit dans cette idée qu'on reçoit et puis que soi-même on n'a pas, on ne transmet pas, il y a un problème, bien sûr, de symétrie. Donc liberté d'accès aux ressources, c'est ça. C'est-à-dire que donc chaque être humain doit avoir une part qui permette la liberté. Alors pourquoi là c'est une part, évidemment c'est différent avec le logiciel, puisque le logiciel chacun peut avoir une copie. Bon, mais là on ne peut pas faire une copie de la Terre pour tous, donc on ne peut pas chacun, tous être propriétaire de toute la Terre. Donc si on veut que les libertés économiques puissent s'établir, il faut donc une part. Alors ça peut être une part compensatoire. Et c'est là que la monnaie joue son rôle, parce que on peut accepter que les propriétés soient établies, mais en compensation, eh bien on utilise une monnaie qui est partagée par tous. Ce qui permet à chacun de bénéficier d'une part des fruits de l'exploitation de cette matière originelle qui au départ n'est pas propriété. Donc on peut le comprendre de multiples façons, mais c'est ça. Donc chaque être humain doit pouvoir, à minima, ça serait par exemple d'avoir son bout de terrain, mais chacun n'a pas forcément envie d'être agriculteur demain et d'avoir son bout de terrain. Donc ça peut se faire sous forme de compensation, et je vous renvoie à la notion de la compensation lockéenne et de la clause lockéenne que vous trouverez facilement sur Internet. Ensuite, bon, mais c'est bien, une fois qu'on a défini la liberté d'accès aux ressources, c'est bien. Mais ensuite, l'économie, c'est pas que les ressources, c'est la liberté de produire. Alors, produire, c'est la transformation des ressources ou c'est la transformation de la connaissance. Et là, il n'y a pas spécifiquement des ressources, au sens où c'est la production de richesses non matérielles ou de richesses non monétisées. Exemple, les logiciels libres, justement. Mais exemple aussi, l'amélioration qu'on peut avoir dans les sciences, dans les techniques et dans l'enseignement, qui sont pas forcément des choses matérielles. Et les grands, d'ailleurs, les grands découvreurs de théories scientifiques, en général, n'ont pas fait de choses matérielles. Ils l'ont fait de façon purement rationnelle et donc intellectuelle. Bon, ils ont produit quelque chose. La plupart du temps, ces productions-là sont difficilement propriétés, donc peuvent difficilement faire l'objet d'un contrat marchand derrière. Elles sont plutôt en général largement diffusées. Pour autant, les successeurs qui vont bénéficier de ce travail auront bien un atout dans la production de leurs propres valeurs. Et si on n'en tient pas compte, ça veut dire qu'on aura laissé quand même des gens produire des valeurs sans être eux-mêmes rémunérés, par sous prétexte que ce qu'ils produisent n'est pas de l'ordre de l'échange marchand standard, de l'échange matériel standard, parce que la plupart du temps, c'est quand même le matériel qui permet de comprendre le mieux un échange économique. Mais ça ne s'arrête pas là, l'économie, bien sûr. Et le travail humain, il n'est pas gratuit au sens où, ben, l'effort, on le sait tous, ça demande un investissement non nul. Donc, liberté de produire sur cette base. Et ensuite, liberté, bien sûr, d'échange. Ça, c'est la base aussi. Alors, on pourrait définir une quatrième liberté sur cette base-là, qui est la liberté de choisir son système monétaire. Parce qu'une fois qu'on a défini ça, la troisième liberté dit déjà, bon, liberté d'échange dans la monnaie. C'est-à-dire qu'on suppose quand même que si on veut pouvoir parler de l'économie de façon commune, et donc avoir une base commune de compte et d'échange, et vous remarquerez bien que j'évite de parler de réserve de valeur, je vais expliquer pourquoi, mais de compte et d'échange à minima, eh bien, ça suppose que l'on se soit mis d'accord sur un système monétaire. Alors là, encore une fois, l'aspect temporel va jouer, parce que si on se met d'accord sur un système monétaire, bah, que se passe-t-il l'année qui suit ? C'est toujours pareil, c'est l'idée de penser qu'on pourrait établir un accord, et une fois cet accord réalisé, tout va bien, non. Hein, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau économique ou autre, tout accord court dans le temps, et si on comprend le flux humain, donc les nouveau-nés qui remplacent petit à petit les morts, et au bout de 80 ans, 100 ans, ils remplacent entièrement une société, ça se fait donc petit pas par petit pas, année après année, eh bien ces accords sont donc révisables, doivent être révisables. Donc si on ne le comprend pas à la base, que cet accord sur le système monétaire doit être révisable, qui est donc, si on ne comprend pas donc qu'il n'y ait pas un processus à minima qui ait été intégré qui permette la révision, qui soit même en accord avec la liberté de révision de ce système monétaire, eh bien on n'est pas dans la liberté. Dans ce cas-là, c'est un système monétaire qui a été établi par les morts, et comme disait Thomas Paine, ce sont les morts dans ce cas-là qui auront décidé des règles que doivent suivre les vivants. Donc voilà les quatre libertés économiques. Liberté d'accès aux ressources, dans le sens de la clause lockéenne, de la compensation lockéenne. Liberté de produire. Liberté d'échange, dans la monnaie, donc aussi liberté de choix de son système monétaire. Alors, c'est une liberté qui n'est pas une liberté individuelle, celle-là, alors que les trois premières le sont un peu plus, même complètement. Mais bien sûr, parce que là, on est sur un accord interpartite. C'est-à-dire que vous, si vous utilisez même un protocole comme TCP/IP tout seul de votre côté, vous pourrez communiquer avec personne. TCP/IP, c'est le protocole qui permet les échanges sur Internet. Ça ne peut fonctionner que si les autres l'utilisent aussi. Donc, on s'est mis quelque part d'accord, de façon implicite ou explicite, peu importe, pour l'utiliser. Certains l'ont fait de façon explicite parce qu'ils savaient, d'autres le font de façon implicite parce qu'ils découvrent, et ils comprendront que plus tard qu'ils utilisent un protocole. Bon, pour autant, cet accord est manifeste de ces deux façons, et il s'agit bien d'un accord, et il est révisable. D'ailleurs, il y a des versions nouvelles de TCP/IP qui attendent d'être déployées, comme IPv6, bon, voilà. Donc ça devrait être la même chose pour la monnaie. Et notamment cette possibilité de le changer au moins dans le temps et aussi dans l'espace. Pourquoi pas une communauté qui choisit de développer sa monnaie locale ou spécifique doit pouvoir le faire si on veut respecter les libertés. C'est pas parce que c'est difficile à penser que ça peut poser d'autres types de problèmes par rapport à d'autres problématiques que cette liberté doit être pour autant rejetée. Non, elle existe. Après que ça pose des difficultés, ben, il faut les résoudre. C'est ce qu'essaie de faire la théorie relative de la monnaie. Donc voilà, une fois qu'on a défini ça, on a défini justement des libertés nécessaires pour un système monétaire, non pas vis-à-vis de la monnaie elle-même, mais vis-à-vis de l'utilisateur, vis-à-vis de l'homme qui va l'utiliser. Si donc on met en face des hommes, face à un système monétaire qu'ils n'ont pas eux-mêmes choisi dans un premier temps, qui ne leur permet pas un libre accès aux ressources, dans une part qui permette la liberté de chacun, dans une part au moins minimale, puisque là, comme on l'a dit, la Terre n'est pas duplicable et on ne peut pas tout posséder, tout utiliser, produire sur n'importe quelle base, mais le minimal n'exclut pas l'impossibilité. Donc on est quand même dans la possibilité ici. La liberté de produire et d'échange, si donc tout ceci n'est pas possible dans cette monnaie-là, eh bien on n'est pas devant ce qu'on peut appeler une monnaie libre, justement. Et c'est très semblable, justement, à cette différence entre logiciel libre et logiciel open source, sur cette profondeur-là d'analyse du système, donc des fondements du paradigme. Donc la TRM, elle met l'accent sur la liberté de l'utilisateur, donc il faut bien comprendre ça. Sur cette base, ensuite, la TRM définit un principe qui est un principe de raisonnement, qui est un principe d'inférence. Tout système logique définit un principe d'inférence qui permet de développer quelque chose de cohérent avec sa base. Alors en mathématiques, on parlera par exemple de raisonnement par récurrence, qui est le raisonnement vraiment fondateur de quasiment toute la mathématique, on peut dire. Hein. Sans cela, on peut pas faire grand-chose. C'est ce qui permet de faire des théorèmes, c'est ce qui permet de trouver des vérités, etc. Et la physique aussi fonctionne sur le principe d'inférence, qui est le principe de causalité, hein, qui lui aussi, la causalité, la cause précède l'effet, et les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Si les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a raté une cause Et donc, il faut revoir justement les lois de la physique qui sont l'expression de ce principe fondamental d'inférence. Donc là, le principe concernant l'économie selon la théorie relative de la monnaie, c'est le principe de relativité dans l'espace-temps. Qu'est-ce qui nous dit ce principe de relativité dans l'espace-temps? C'est que justement, la valeur est parfaitement relative à l'homme qui la mesure, où qu'il soit dans l'espace. C'est-à-dire que l'eau n'aura pas la même valeur, si vous voulez, pour le Touareg que pour le Parisien. Exemple, hein, vous pouvez étendre ce principe, il faut d'ailleurs le faire, à tous les exemples qui vous viennent en tête, dans l'espace, mais aussi dans le temps. Hein. On peut imaginer dans le temps, je vais prendre un exemple extrême, mais peut-être que dans 200 ans, Paris deviendra un désert et le Sahara deviendra parfaitement irrigué, pourquoi pas, et ça va être inverse pour l'eau. Bon, il y a ça, mais il y a aussi bien sûr le fait qu'il y a des nouvelles valeurs qui se créent, qui ne sont pas des valeurs non plus forcément basées sur la matière originelle. Exemple les logiciels libres, encore une fois, exemple les protocoles, exemple l'informatique au sens large, mais exemple aussi bien sûr la littérature, les films, etc. En fait, tout ce qui est non matériel actuellement qui est en pleine expansion aujourd'hui. Ben, ces valeurs-là n'étaient pas reconnues comme des valeurs centrales, mais des valeurs, je dirais, secondaires il y a encore 15 ou 20 ans. Et donc on n'a rien fait pour rémunérer les créateurs qui ont permis qu'aujourd'hui Internet existe. Et ils sont nombreux. Je vais citer le plus célèbre d'entre eux, Richard Stallman. Que je sache, Richard Stallman n'est pas milliardaire. Alors que d'autres de ses collègues comme Bill Gates ou Steve Jobs le sont devenus, pour autant je ne suis pas du tout certain que l'apport de Stallman en termes de richesse dans le monde entier ne soit pas bien plus grand que les deux précédents cités. Alors chacun se fera son idée, puisque la valeur étant justement parfaitement relative à l'observateur qui la mesure, je vous donne qu'un exemple. Donc vous devez pas non plus penser que ce que je vous dis est une vérité, puisque ça serait contraire à la théorie relative de la monnaie de penser que ce que dit quelqu'un par rapport à une valeur est une vérité en soi. Non, certainement pas. Donc ça ne reste qu'un avis personnel. Donc vous pouvez, par contre, dans votre propre référentiel, vous aurez vous-même des valeurs que vous pourrez estimer comme valeurs, de façon légitime, vous avez le droit de le faire, bien sûr. Mais vous pensez qu'autrui ne le considérera pas comme ça. Et l'inverse est vrai aussi. Il faut l'accepter, ça. Et si on l'accepte, eh bien dans ce cas-là, on est en cohérence avec le principe de relativité. Si par contre, on impose aux autres le fait que telle ou telle valeur est absolument une valeur et que pour ces raisons-là, il faut absolument faire quelque chose pour développer ceci, cela, là vous n'êtes pas du tout dans le principe de relativité. Là vous êtes dans la croyance de la valeur absolue. Parce que dans l'histoire des sciences, on dirait que c'est la différence entre ceux qui croyaient que la Terre était plate et ceux qui pensaient qu'elle était peut-être ronde, et sans doute même ronde, ou encore la différence entre Newton qui pensait que l'espace était fixe et établi comme tel et les objets mouvant dedans, alors qu'Einstein dit que l'espace est relatif. L'espace-temps est relatif au sens où il bouge, ses caractéristiques bougent en même temps que son contenant. Il y a une interaction entre les deux. Donc je reviens à ce principe-là. Bon, mais c'est un peu la même chose. Vous avez ici, en termes de principe de relativité, ce mouvement dans l'espace et ce mouvement dans le temps. Donc à partir de là, seule la monnaie, qui est un accord, peut faire l'objet d'un acquiescement. C'est-à-dire que si je vous dis qu'il y a 10 de monnaie, bon, ben on est tous d'accord sur le fait qu'il y a 10. On ne sera pas d'accord sur la valeur qu'on va mettre derrière, puisqu'on ne sera pas d'accord sur les valeurs que l'on veut obtenir ou pas avec. Ou que l'on veut produire ou pas avec, hein, parce qu'il n'y a pas que l'obtention, il y a aussi la production. Là aussi, hein, le schéma qui consiste à séparer d'un côté les producteurs, de l'autre côté les consommateurs, ça veut dire que l'homme, pour être que l'un ou que l'autre, ça ne tient pas la route. Donc il y a des échanges qui sont à la fois issus de production et de vente ou d'achat. C'est pas lié à des catégories de personnel, j'ai envie de dire, qui font ceci ou cela et qui feraient que ceci ou cela. Non, on est tous potentiellement autant producteurs que consommateurs et on vend autant que l'on achète. Sinon, on serait tous en faillite. Donc, sur ce principe-là, le principe de relativité est très important. Dans le temps aussi, les valeurs d'aujourd'hui, les valeurs de demain ne sont pas les mêmes, y compris donc pour un même observateur. C'est-à-dire, moi, l'an prochain, je peux changer d'avis, et vous aussi. Et mieux que ça, c'est-à-dire qu'au-delà de ma mort, et au-delà, vous, donc vous devez penser au-delà de votre mort, vos successeurs ne penseront pas du tout que leurs valeurs à eux ont des rapports forcément avec vos valeurs à vous aujourd'hui, tout comme aujourd'hui, vous pensez que vos valeurs à vous ne sont pas en rapport avec les valeurs d'il y a 80 ans. Hein, les valeurs en 1929 ne sont pas les valeurs en 2013. Regardez toutes les valeurs qui s'échangeaient en 1929, qui se produisaient, qui s'échangeaient, ça n'a que peu de rapport avec les valeurs en 2013. Il y en a, hein, je ne dis pas que toutes les valeurs disparaissent, mais si 80 ans ça ne vous suffit pas, faites 80 ans de plus, et encore 80 ans de plus, et etc. Et voyez comment dans le temps, de proche en proche, eh bien, tout se transforme. Et eh bien donc tout ceci ne se fait pas d'un coup, ça se fait de façon ce qu'on appelle différentielle. Hein. Alors, c'est là qu'il faut faire un petit effort, par contre, bien sûr. Il faut étudier un peu comment on peut être en accord avec ce changement, non pas de façon violente en disant, bah, tiens, un jour on se dit, ah, bah, tiens, tout a changé, et c'est maintenant la vérité, c'est ça, et puis ça sera ça avant le prochain changement. Non. Cette vérité, elle change de proche en proche et elle change pour chaque individu, à chaque instant et aussi génération après génération d'individus. Voilà. Donc c'est ça le principe de relativité. Chaque observateur, finalement, a une estimation des valeurs économiques différentes. Voilà. Et on ne passe pas de l'un à l'autre sans qu'il y ait des changements à ce niveau-là. La seule chose qui reste commune entre les deux et qui leur permet de parler économie entre eux, c'est l'accord sur lequel ils se sont établis pour avoir une monnaie commune. Parce que cette monnaie-là, par contre, fait l'objet d'un accord. C'est la seule. C'est cette seule valeur commune. Voilà. Et alors après, une fois qu'on a compris ça, on doit pouvoir comprendre que cette monnaie, donc, est la seule valeur commune. Et là aussi, si je veux que, dans l'espace, ça puisse être cohérent avec la différence des valeurs, eh bien, on ne peut pas se permettre de dire on va créer plus de valeurs là que là, sous des prétextes de pseudo-valeurs, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de valeur. Donc, il ne peut pas non plus y avoir de réserve, d'ailleurs, de valeur. Donc il y a une contradiction entre la notion d'outil universel de compte et d'échange, dévolu à la monnaie, et la notion de réserve de valeur. Donc, par contre, si des gens pensent qu'on peut véritablement faire des réserves entre guillemets de valeur, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne le fassent pas au détriment de l'instrument d'échange, qu'ils le fassent dans autre chose dans ce cas-là, dans ce qu'ils ont défini quand même comme valeur. Donc si on estime, je ne sais pas, que avoir... je sais pas, tiens, de l'or, puisque c'est à la mode, de l'or dans ses coffres, c'est une réserve de valeur, mais très bien, qu'il le fasse. On peut se passer de l'or, ça s'appelle des produits de substitution. On n'a pas besoin d'or pour beaucoup de choses. Et même pour la quasi-totalité des choses, on peut trouver des produits de ce qu'on appelle de substitution. Mais on peut tout à fait considérer que l'or est de la valeur et vouloir de l'or. Donc il n'y a pas de problème avec ça non plus. Donc dans la mesure où on ne s'approprie pas tout l'or du monde, que l'or n'est pas absolument indispensable à l'économie, etc., on peut très bien stocker de l'or, pourquoi pas. Si ces gens-là pensent que c'est de la valeur, mais ils ne peuvent pas l'imposer aux autres, par contre. Enfin, ils peuvent, mais ils seraient en contradiction, dans ce cas-là, avec le principe de relativité et le principe de liberté d'accès aux ressources. Hein, c'est-à-dire qu'ils essaieraient d'imposer une valeur absolue et, en plus, finalement, en niant le droit d'exister économiquement aux nouveaux hommes qui naissent et qui croissent au sein de l'économie. Donc voilà en quoi cette notion de réserve de valeur est incohérente avec la théorie relative de la monnaie. Et donc le principe de relativité qui impose ça de façon directe. On va faire maintenant une petite pause dans cette émission et on va écouter un peu de musique libre. On va écouter Lovely de Triad. Voilà, je vous laisse avec Lovely et on se retrouve juste après. Thank you. c'était donc Lovely de Triad et on reprend la suite de notre émission sur la TRM 2.718 et son fondement.
Alors dans le temps, le principe de relativité implique donc que cette masse de monnaie existante ayant fait l'objet d'un accord, pour qu'elle soit vraiment un accord y compris dans le temps, pour qu'on puisse dire aux hommes qui vont nous suivre, bah, écoutez, regardez, nous on vous propose d'utiliser cette monnaie, pourquoi ? Parce qu'on l'a pensée non seulement pour nous mais aussi pour vous. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrogé un droit de définir pour nous à notre seul avantage une appropriation commune des biens et notamment justement des ressources sur la base de cette monnaie, puisqu'on accepte d'échanger sur la base de cette monnaie, que ce soit en termes d'unité de compte et aussi d'instruments d'échange, de valeurs d'échange. Eh bien, on l'a pensé aussi pour vous. Et on l'a pensé aussi pour vous, sous le principe que, de génération en génération, chaque génération, chaque être humain, entre sa naissance et sa mort, aura reçu la même part relative de monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire, une part relative de monnaie ? La monnaie en soi n'a pas de valeur absolue d'échange, c'est-à-dire que vous possédiez 10 de monnaie ou 100, ça n'a pas de sens si je ne vous dis pas combien il y a de monnaie en tout. Si vous avez 10 sur 1000 ou 100 sur 10 000, bah, c'est la même chose. Hein, c'est facile, vous savez faire des fractions quand même, vous savez faire des divisions. Si je vous dis par contre que vous avez 100 sur 1 million, ben c'est beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup plus de monnaie, donc vos 100, entre guillemets, pèsent quand même beaucoup moins. Bon. Donc si on veut que chaque homme, durant toute sa vie, ait reçu la même part relative de monnaie, il faut que la somme de la monnaie qu'on va lui attribuer toute sa vie soit égale, non seulement dans l'espace, alors ça c'est par rapport aux hommes qui sont nés en même temps que lui, et qui sont répartis dans l'espace en même temps que lui, non seulement à ce niveau-là, mais aussi dans le temps. Donc il faut que la somme relative soit la même. Alors comment cette somme relative peut être la même ? Eh bien, pour justement ne pas briser le principe de relativité dans l'espace, il faut que d'abord la monnaie qui soit créée le soit que de façon symétrique dans l'espace, donc pour chaque homme vivant. Ça c'est la base fondamentale. Donc déjà, ça suppose qu'il y a forcément un revenu de base. Rien que ce principe-là implique que ça ne peut être qu'un revenu de base. Ça peut être, ou alors à minima, on pourrait dire, si, ça pourrait être zéro pour tous tout le temps. Alors évidemment, si c'est zéro pour tous tout le temps, il n'y a pas de monnaie, dans ce cas-là, il n'y a pas d'accord. Donc on n'est pas dans une économie où il y a une monnaie. Il n'y a pas d'accord et on n'est pas d'accord. Bon, très bien. Maintenant, si on est d'accord et qu'on crée sur cette base, eh bien, il faut que ça soit la même chose pour un instant T. Je prends une photo de la société. Ce qu'on a créé à cet instant doit être le même pour tous. Déjà, premier point. Ça, c'est la symétrie dans l'espace. Hein, fixer le temps, ça signifie en fait, fixer le temps, ça veut dire regarder que l'espace. Et après, pour que ça soit égal dans le temps, il faut que la somme de toutes ces créations de monnaie de proche en proche, pour chaque homme, pendant toute sa vie, soit égale. Et c'est la somme de la monnaie par rapport à la masse monétaire totale, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, la monnaie n'a de valeur que par rapport à la totalité de monnaie en circulation. C'est pas pareil d'avoir 10 sur 1000 que 10 sur 1 million. Donc, ceci est un principe mathématique simple que un mathématicien, il faut avoir un niveau, disons, de lycée, terminal à peu près, scientifique pour savoir faire ça, ou économique, on doit pouvoir y arriver aussi. C'est un petit raisonnement qu'on fait en physique aussi, assez souvent, dès le lycée, donc on doit pouvoir le faire à un niveau bac, il faut se replonger dans ses souvenirs quand on n'a plus fait ça depuis longtemps. Mais on peut y arriver assez simplement, avec des petites révisions, chacun devrait pouvoir le faire. Eh bien, si on fait cette égalité, cette somme égale durant la vie pour chaque homme et donc pour tous les hommes, présents et aussi dans le futur, on obtient que la masse monétaire doit croître d'un dividende universel, donc d'un revenu de base, hein, c'est équivalent, c'est au principe, qui est une proportion de la masse monétaire. Ça, c'est l'équation qui nous donne ça. Et quelle est cette proportion ? Ben, si on veut que ça soit égal d'espérance de vie en espérance de vie, l'espérance de vie étant par exemple de 80 ans, il faut qu'en gros, la monnaie qui a été créée il y a 80 ans, ne pèse plus dans l'économie au moment où on mesure qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui qu'un 80e de la monnaie existante. C'est-à-dire que petit à petit, le fait de créer la monnaie fait fondre, en fait, si vous voulez, en valeur relative, en potentiel d'achat relatif, l'ancienne monnaie, la vieille monnaie, la monnaie de 1929, aujourd'hui, si vous voulez, ne pèserait plus que un 84e de la totalité de la monnaie. Je vous fais remarquer que c'est exactement ce qui se passe. Si vous regardez la masse monétaire de l'époque et la masse monétaire d'aujourd'hui, on est dans des proportions semblables, voire même peut-être même plus. Hein. Peu importe. Alors ça peut être 85, 100, à la limite on peut discuter de ça, mais le principe le plus simple, et ça ne change pas grand-chose, c'est de dire qu'au bout de 80 ans, c'est un 80e. C'est le principe le plus fondamental et qui est justifié par le fait que ben, les hommes de 80 ans, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a. ou si c'est 80 ans vous plaît pas, vous prenez 90 ou 100 ou 110, c'est un détail et ça ne changera pas énormément le résultat final. Mathématiquement, on démontre que c'est une petite variation. Ça ne change même pas l'ordre de grandeur. Bon. Et voilà ce à quoi ces simples fondements arrivent. C'est-à-dire que donc pour qu'une monnaie soit libre, ces caractéristiques mènent à ce résultat. Donc la seule donnée complémentaire qu'on a, c'est l'espérance de vie. Alors elle dépend de la zone aussi, parce que les hommes ne vivent pas la même espérance de vie selon là où ils sont, et puis l'époque aussi où ils sont. Peut-être que dans 100 ans, les hommes vivront peut-être 150 ans, j'en sais rien, je ne sais pas. Et je ne sais pas dans quel état. Mais c'est pas grave, je dirais, de proche en proche, d'année en année, ça changerait très peu la valeur. De toute façon, c'est pas un critère absolument fondamental. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce principe-là, et de savoir que c'est un pourcentage de la masse monétaire. Et qu'il faut le connaître, il faut l'afficher. En gros, aujourd'hui, ça serait de l'ordre de 10% par an, on peut choisir des valeurs entre 5 et 10% par an. D'autant plus, alors après qu'on a d'autres problèmes aujourd'hui, c'est que savoir exactement ce qu'est la masse monétaire, c'est difficile parce qu'il y a des quantités de monnaie qui sont plus ou moins affichées. On connaît M3, la masse monétaire M3, mais il y a d'autres agrégats monétaires, c'est vrai, et que donc on pourrait arriver jusqu'au double de M3, et ça peut varier sur la valeur du revenu de base. Mais en gros, on pourrait avoir sur ce principe-là un revenu de base en Europe, hein, de l'ordre de... alors c'est une fourchette du coup, hein, parce qu'il y a des incertitudes. Mais si on tient compte, le taux n'est pas incertain, le taux il est connu, c'est de l'ordre de 9%, 9% par an, mais selon la masse monétaire, on serait entre 500 et 800 euros par mois ou 1000 euros par mois. Voilà, ça c'est l'ordre de grandeur qu'on obtient avec ce raisonnement. C'est d'ailleurs remarquable que les défenseurs du revenu de base qui partent d'autres prédicats arrivent à des résultats similaires, mais sur d'autres considérations. Ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui converge à ce niveau-là, et donc c'est intéressant de savoir ça. Mais là, on parlait surtout des fondements, hein. Liberté, donc les trois libertés économiques: liberté d'accéder aux ressources, liberté de produire, liberté d'échanger dans la monnaie. Sinon, on n'a pas de monnaie commune dans ce cas-là, et c'est une économie qui est basée sur le troc, uniquement le troc. Donc ces trois libertés sont le fondement, et ce sont des libertés liées à l'utilisateur. Voilà. Donc pas la contraposée, c'est de dire qu'une monnaie qui n'est pas définie sur ces principes-là, bah, mécaniquement, elle n'est pas libre. De la même façon qu'un logiciel qui ne définit pas sur son fondement qu'il a été écrit respectueusement à une licence qui définit les libertés de l'utilisateur, on ne peut pas dire qu'il est vraiment libre. S'il est défini sur des critères d'optimisation, de performance, d'utilité, c'est très bien, mais c'est un autre type de définition de logiciel. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est bien les fondements qui vont définir la nature de ce qu'on utilise. Voilà. Donc c'est ce point-là que la TRM a voulu, dès le début, et c'est le fondement même de la chose, établir. C'est-à-dire que la réflexion s'est faite par rapport à ces libertés. Et sans doute par le fait qu'elles sont largement bafouées dans l'époque où l'on vit aujourd'hui. Depuis sans doute pas d'hier, sans doute depuis 30 ans ou 40 ans, mais peut-être de façon encore plus marquée depuis les années 2000 finalement. On s'aperçoit qu'on arrive au bout d'un système dont on s'aperçoit en arrivant au bout que depuis longtemps il bafoue ces libertés-là. Mais elles n'ont jamais été déclarées, ces libertés. Donc si elles n'ont jamais été déclarées, affirmées, c'est peut-être un peu une conséquence que ce soit d'autres fondements qui s'expriment. Donc si ces libertés ne sont pas mises en avant, et si le raisonnement qui va avec, qui est compatible avec elles, ne se met pas en place, mécaniquement, comment autre chose pourrait voir le jour? Donc il est difficile de penser qu'un arbre puisse pousser si on ne plante pas la graine. Donc je pense que c'est là qu'il y a quand même une réflexion à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un fondement doit pouvoir s'exprimer, encore faut-il effectivement le faire. Donc, je vais conclure quand même pour dire que selon la TRM, on comprend donc que la monnaie, même si le raisonnement avec les logiciels nous permet de comprendre, c'est quand même pas un logiciel au sens où c'est pas tout à fait, c'est pas une liberté individuelle de pouvoir la modifier, parce que c'est quand même un accord entre tous. Donc, ça peut être une liberté entre guillemets collective, mais attention, le collectif n'existe pas selon la TRM au sens où il n'est pas absolu, puisque dans le temps, c'est pas le même collectif aujourd'hui que celui de demain, puisqu'il y a des morts et il y a des naissances. C'est donc un flux, et dans 80 ans, la société sera entièrement renouvelée. Donc ceux qui pensent que le collectif va décider, Le collectif, s'il prend une décision, il va prendre une décision qui va impliquer le collectif qui lui suit. Et le collectif qui lui suit, c'est pas le même. Donc le collectif, pas plus que l'individu d'ailleurs. L'individu à l'instant T n'est pas l'individu à l'instant T plus 1. Donc si on ne comprend pas l'individu dans toute son intégralité de vie, entre sa naissance et sa mort, si on ne le voit pas à ce niveau-là, eh bien, on risque de manquer des démarches. Il ne faut pas s'étonner qu'il ait des accidents. Hein, je veux dire, quand vous prenez votre véhicule et que vous faites un chemin, si vous n'avez pas bien étudié la carte, vous risquez de vous trouver dans des situations délicates, devant un ravin ou devant un pont cassé ou je ne sais quel souci. Hein. Il faut quand même vérifier un minimum là où on met le pied, en quelque sorte. Hein. Bon, ben, c'est la même chose, même si ça, le temps peut paraître avancer lentement à ce niveau-là, au niveau de l'économie, c'est quelque chose qui est lent. Mais lent ne veut pas dire immobile non plus. Hein. Même très lent, c'est pas immobile. Donc il faut penser quand même ce changement sur ces très longues périodes, parce que de proche en proche, au bout de 30 ans, ça fait mal le choc. Le choc fait mal et le choc fait mal parce qu'il y a 30 ans ou il y a 40 ans, et nous pour la plupart, si on a moins de 50 ans, eh bien on n'était pas vraiment au fait des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Eh bien, les décisions qui ont été prises n'ont pas intégré qu'on allait grandir, qu'on allait arriver dans cette société et qu'on avait notre mot à dire et pas du tout la même façon de voir les choses. Et on ne nous a pas donné la possibilité de changer ce qu'ils avaient établi à l'époque. Donc si nous-mêmes on fait cette même erreur, et comme les mêmes causes produisant les mêmes effets, on en a parlé tout à l'heure, le principe de causalité va s'appliquer, donc il faut s'attendre dans 30 ou 40 ans au même problème devant une jeunesse qui ne sera pas la nôtre, puisque nous on sera vieux. Donc il faudrait éviter de faire ça, et chaque année il faudrait éviter, puisque encore une fois, c'est quelque chose de différentiel. Donc c'est pas un logiciel. C'est pas tout à fait un protocole de communication, même ça y ressemble, hein, puisque échanger, c'est aussi une forme de communication, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas un protocole de communication. Mais c'est un protocole de, je dirais, quantifié. Hein. C'est un protocole quantifié, il y a quand même une masse monétaire qui existe à l'instant T, qui évolue dans le temps, donc il y a une limite aux échanges monétisés, il y a une limite aussi liée au fait que tout n'est pas mesurable en unité de compte monétaire, il y a toujours des choses qui échappent. On le voit aujourd'hui avec les logiciels libres. Et depuis longtemps, c'est pas d'hier que ça échappe. Et j'ai donné d'autres exemples sur créationmonétaire.info. L'hélicoptère inventé par Léonard de Vinci n'avait pas de valeur au moment où il le crée. Ce n'est que 400 ans plus tard qu'il y a un marché énorme dans le monde sur les hélicoptères. Vous voyez, donc c'est devenu quelque chose de quantifié monétairement, alors que l'invention date d'il y a 400 ans ou 500 ans. Et encore une fois, c'est un exemple, vous pouvez en trouver des centaines. Vous-même, dans votre propre référentiel, trouvez le nombre de choses qui ont été créées par des gens dans le passé qui se sont trouvées monétisées plus tard. Ben, c'est pareil aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Hein. Donc quand bien même on ferait une monnaie qui soit universellement répartie, il y aura toujours des échanges non monétisés. Donc, et qui seront issus de créations de valeurs individuelles et qui ne sont pas moins méritantes que d'autres. Donc il faut toujours être extrêmement circonspect par rapport au lien entre mérite et monnaie. D'ailleurs, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite particulier à faire des échanges. Hein, entre quelqu'un qui échange beaucoup de ce qu'il a par rapport à autre chose et l'autre qui échange rien, on voit pas trop pourquoi l'un aurait du mérite plutôt que l'autre. Si c'est pas parce que l'autre échange pas qu'il fait pas autre chose. D'ailleurs, créer n'est pas échanger. Hein. Le sculpteur qui crée sa sculpture, il échange pas pendant qu'il sculpte. Il peut mettre 5 ans à sculpter, donc sans rien faire apparemment, puisqu'il n'y a pas de flux financier. Alors pour l'instant, on dirait qu'il travaille pas. Non, il crée. Alors après, est-ce que sa sculpture un jour aura pris une valeur monétisée ou pas? Peut-être. On n'en sait rien, donc on doit le respecter et on doit accorder un minimum de valeur à ça, même si on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être après sa mort, peut-être avant sa mort. Et c'est souvent après la mort d'ailleurs, hein, savoir pourquoi. Voilà, donc il faut comprendre ces principes-là, de liberté qui sont les fondements, et le principe de relativité qui n'est pas que dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc pensez que vos enfants ne penseront pas, ou nos enfants au sens large, ne penseront pas du tout les valeurs comme nous on les pense, et donc si on ne respecte pas ce principe, eh bien on les empêchera de créer de la même façon que beaucoup d'hommes ont été empêchés de créer leurs propres valeurs ou de les développer correctement parce que tout simplement ce sont les valeurs de l'ancien temps qui ont imposé leur vue au mépris du principe de relativité. D'ailleurs, à noter que ce principe-là, il ne fait pas que s'exprimer comme étant quelque chose de souhaitable, ce n'est pas la question. C'est que même dans la réalité, c'est le fait de le violer crée des catastrophes. Ça veut dire que ça, c'est comme, si vous voulez, si vous recevez la pomme sur la tête, hein, comme la pomme de Newton, c'est parce que vous avez oublié de vous déplacer, et si vous oubliez de vous déplacer, vous prenez la pomme sur la tête, et ça fait mal. Ça, c'est la loi de la gravité, d'accord ? Donc, c'est pas quelque chose de hasardeux, c'est certain. Donc on peut dire aussi que le viol du principe de relativité dans l'espace-temps, c'est-à-dire le fait de ne pas permettre aux nouveau-nés de développer leurs propres valeurs, etc., finit par créer à terme des révolutions ou des insurrections, voire des guerres. C'est la conséquence de l'avoir violé une année. Bon, ça passe, deux années, mais 30 ans, 40 ans, ben, une génération qui monte au bout de 30 ou 40, ça fait du monde. Hein. Regardez les indignés, comme ils ont été nombreux à manifester. Ben, voilà ce que ça donne. Et c'est pas fini, parce qu'on est en 2013 et c'est pas fini. Donc, si on comprend ce processus, il faut comprendre qu'il n'est pas qu'aujourd'hui, il va continuer. C'est-à-dire si on continue à le faire, ben, on est en 2013, dans 2023, en 2030, etc. Il va se passer encore des choses. Voilà, donc c'est... L'équilibre, il ne faut pas le faire une fois pour dire, voilà, on a rétabli l'équilibre et tout va bien. Non, non, c'est l'équilibre, c'est comme quand on pédale sur un vélo, il ne faut pas s'arrêter de pédaler, hein, sinon c'est... Hein, c'est, votre vélo finit par s'arrêter et vous tombez. Ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si c'est en mouvement, il faut que le mouvement soit en perpétuité, de façon perpétuelle, il faut qu'il soit transmis aux roues. Hein, il faut que l'énergie soit transmise et c'est un peu d'énergie tout le temps et non pas beaucoup d'énergie à un coup, puis après plus d'énergie du tout. On ne donne pas un grand coup de pédale et après on ne pédale plus en pensant que ça va durer. Non, ça finit par s'arrêter et vous tombez. Non, il faut pédaler un peu tout le temps. Donc il faut transmettre un peu tout le temps, parce que si on ne transmet pas un peu tout le temps, au bout d'un moment, ça fait mal, ça chute. Donc le respect de la symétrie, tout simplement, dans l'espace et dans le temps. Voilà les fondements de la théorie relative monnaie. Et vous voyez que sur cette base, si on comprend bien ces fondements, on doit pouvoir, si on est relativiste, c'est-à-dire si on accepte d'utiliser ces fondamentaux, distinguer ce qui est une monnaie qui les respecte, ce qui est une monnaie qui ne les respecte pas. Il peut y avoir des petites variantes hein, sur des monnaies relativistes. On pourrait discuter de variantes possibles qui ne sont pas tout à fait l'ATRM, mais qui seraient compatibles à la marge, disons, avec le principe. De la même façon que dans les logiciels libres, bon, il n'y a pas que la licence GPL qui soit véritablement libre. On pourrait en citer d'autres qui respectent aussi les principes de liberté, mais pas tout à fait de la même façon. Bon, donc il peut y avoir bien sûr des variantes. Mais voilà, si on veut les respecter et qu'on les comprend bien avec le principe de relativité, on doit pouvoir dire attention, cette monnaie, elle est relativiste, elle est compatible avec les trois libertés économiques et le principe de relativité dans l'espace-temps, parce qu'elle est un dividende universel, parce que chaque homme reçoit la même part de monnaie qu'il soit né aujourd'hui ou qu'il naisse dans 150 ans. Le long de sa vie, il aura reçu la même part de monnaie. Et dans ce cas-là, oui, on peut dire que c'est correct, ça respecte la liberté de tous dans la même proportion. Du point de vue de la monnaie, hein. La TRM ne prétend pas résoudre tous les problèmes du monde, hein, mais le problème de la monnaie, qui est quand même un problème fondamental, hein, parce que c'est quand même l'outil d'échange économique général et universel de tous les hommes qui l'acceptent au sein de la zone où elle est définie. Donc c'est pas non plus rien, c'est quelque chose de grand, quoi. C'est quelque chose d'important et de grand, mais ce n'est pas tout, bien sûr, ce n'est pas tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a tous les autres principes, mais si on change ça... Si on utilise une monnaie relativiste, bien sûr, ça change beaucoup la façon d'appréhender tous les autres problèmes. Et ça permet de les solutionner de façon beaucoup plus claire, directe et beaucoup plus compréhensible aussi. Voilà. Donc, on comprend, dans ce cas-là, si on fait ça, on comprend les fondements, on est capable donc de distinguer ces monnaies. Et on est capable de l'expliquer aussi, et normalement, ça ne fait pas un pli. C'est-à-dire quand très rapidement... on voit très vite la différence. De la même façon que quelqu'un qui connaît les logiciels sait très vite si un logiciel est libre véritablement ou s'il ne l'est pas. Alors si c'est que open source, s'il est open source, eh bien maintenant il y a des gens qui commencent à comprendre que ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Ce n'est pas des libertés qui sont liées à l'utilisateur, c'est des libertés qui sont liées à l'outil lui-même. Hein. Et là c'est un peu la même chose, est-ce que c'est l'outil qui doit être mis en avant ou l'homme ? Ben, c'est la même chose avec l'ATRM. L'ATRM dit que c'est l'homme, d'abord, que la monnaie, donc c'est son outil, c'est lui qui le définit. Et c'est pas à lui à se plier à la façon dont la monnaie a été définie par les morts, par les gens d'hier. Non, c'est l'homme qui décide. Il suffit qu'il en prenne conscience et qu'il se mette d'accord avec ses semblables. Alors bien sûr, après, s'ils sont que 3, ben, ils le feront à 3. Et s'ils le sont 10, ben, ils le feront à 10. Et s'ils sont 1 million, ils le feront à 1 million. Bon, mais on ne peut pas après forcer autrui non plus. Ça serait contraire au principe. Voilà, il faut comprendre ça aussi. C'est pour ça que le relativiste sera d'accord avec une double démarche qui est d'essayer de faire connaître l'idée de revenu de base, pourquoi pas, pour proposer un changement de la monnaie déjà établie, la monnaie officielle. Ça, c'est une première démarche. Ou alors, deuxième démarche, proposer le développement d'une monnaie qui, elle, est basée sur un revenu de base, un dividende universel, mais une monnaie qui soit autre. Le deuxième choix est, disons, un peu plus respectueux de liberté, même beaucoup plus respectueux des libertés, puisque ne rejoignent cette monnaie que ceux qui sont d'accord avec ces principes, qui veulent respecter les libertés. Et puis les autres, eh bien, soit ils veulent pas, soit ils pensent que la monnaie telle qu'elle existe, elle convient, et qu'ils ils veulent pas en changer le code pour des raisons qui restent pour eux à justifier. Mais maintenant qu'ils imposent leur point de vue, par contre, là, ils vont être en contradiction avec la liberté des autres de penser autrement. Voilà. Donc ils ne pourront pas dire, en tout cas, qu'ils sont respectueux des libertés de pensée de chacun en disant que la monnaie, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc on doit pouvoir rejoindre une monnaie libre, autre. Proposer le changement de la monnaie officielle risque de se heurter à des résistances. Est-ce qu'on peut imposer une monnaie libre? Je pense que c'est pas compatible. Maintenant, si la monnaie officielle s'est établie sur des principes, il y a par exemple ces mêmes principes, il n'y a pas de raison que ces mêmes principes ne permettent pas de la changer. Voilà, si elle veut être cohérente. Donc on doit pouvoir le faire aussi, de la même façon qu'elle a été mise en place. Alors comment elle a été mise en place, c'est encore un autre débat. Voilà, donc voilà le principe que je voulais éclairer, hein, revenir plus profondément sur ces paradigmes et refaire ces raisonnements fondamentaux pour que ceux qui s'intéressent à Terem, et je sais qu'il y en a, bien sûr, il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup d'écoutes, hein, de la première émission sur la TRM, j'étais assez marqué par le nombre, c'est pas mal. Bon, ben voilà, donc je crois que c'est important de l'éclairer de multiples façons, c'est ce que j'essaie de faire, puisque c'est un raisonnement qui demande un approfondissement. Voilà, donc je vous laisse dans cette émission spéciale théorie relative de la monnaie, c'est la deuxième, et je vous dis à bientôt pour une autre émission de Monnaie Libre, et je vous laisse bien sûr avec No More Dreams de Nighter. Au revoir.